Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. À nouveau ensemble en ce début de semaine pour la suite du roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Vers 5h du matin, secouant l'hébétude où nous avions sombré, un agent dénoua la corde qui nous maintenait d'un côté de la salle et procéda à un premier appel. À l'empressement dont ils témoignaient en entendant leur nom, je compris que ces gens étaient relâchés. On leur remettait leurs papiers et ils disparaissaient en rang zélé au virage de l'escalier. Je ne figurais pas dans le lot, ni mon philosophe. Il avait acheté une dizaine de journaux à un crieur introduit tout à l'heure par Tolérance, colporteur ébaudi de l'autre monde. Et maintenant, il commentait les informations pour ses voisins à grands traits sarcastiques qu'il accompagnait des moulinets d'un crayon rouge. La seule façon qu'il avait d'accommoder la rubrique des spectacles me semblait justiciable à la correctionnelle. Il se vantait d'ailleurs de ne plus compter ses procès de presse, écrivant d'une plume au vitriol tout ce qui lui passait par la tête et devinant tout ce qui se passait dans celle des autres, chose que ceux-ci ne lui pardonnaient pas. Il se nommait Jean Casal. Je fus assez fier quand il me tutoya, après qu'un second contingent libérable eût été formé dont nous ne faisions toujours pas partie. Un motocycliste apparut peu après. Il portait une gibecière d'état-major et s'entretint avec le bureaucrate. À quel signe pressentis-je qu'il s'agissait de moi? Au moment où l'on me convoqua, j'étais déjà en posture de défense. « Laborie ?» demanda le fonctionnaire en m'enveloppant cette fois d'une attention soupçonneuse. « Eh bien, ça va pas du tout. Aucune fiche à votre nom n'a été remise au commissariat du quartier par cet hôtel, et là-bas, on ne vous connaît pas. »« Bah, si l'on ne me connaît pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas rempli de fiche. Je n'ai pas eu le temps. » Et l'illumination qui seule pouvait dissiper ce cauchemar jaillit soudain. Vous n'avez qu'à vous renseigner, dis-je, ils se souviendront sûrement du monsieur qui est arrivé avec un pot de fleurs. Ils avaient l'air assez étonnés. Mais qu'est-ce que cette histoire de pot de fleurs vient faire là-dedans ? Dit le motocycliste. Ça vous dérangerait de remplir une fiche quand vous arrivez à l'hôtel ? Et quel hôtel ? Eau courante et discrétion, un bobinard à grossium, mais un bobinard tout de même. Oui, dit l'autre, il y a de cela aussi. Qu'est-ce que ces mœurs de s'enfermer tout seul dans une maison de rendez-vous ? J'ignorais ce que fut exactement une maison de rendez-vous, mais ce devait être infâme à en juger par Sambou. Ben, je ne savais pas, fis-je. Il était midi, c'est l'heure la plus honnête de la journée, mes valises me tiraient le bras. Le secrétaire échangea avec l'agent de liaison une grimace dubitative, puis il déclara, classant des feuillets devant lui. Ben, il est possible qu'en raison de la morte saison, il loue des studios à des gens comme vous, du moins comme celui que vous prétendez être. Vous avez une chambre, conservez-la. C'est à cette adresse que nous devons pouvoir vous situer. C'est là que le commissariat de Pereire viendra vous rapporter vos papiers que nous sommes obligés de retenir pour un supplément d'enquête. Ben, si vous êtes trop pressé, allez donc faire un tour chez le commissaire de temps en temps. Il sera toujours très content de vous voir. Naturellement, vous ne quittez pas Paris. Ça va être long. Mais je croyais que vous veniez d'arriver. Ben, c'est vrai, mais je ne sais plus où je suis. Rappelez-vous que nous avons besoin de savoir où vous êtes. Consterné, je rejoignis Casal. Il me démontra que les flics avaient simplement voulu m'intimider à proportion qu'ils étaient persuadés de mon innocence, qu'ils avaient flairé en moi un puceau judiciaire, un régal de choix. Ils n'ont jamais parlé de ton azalée, naturellement. Non, ni eux, ni moi. C'est bien. Dans 2 mois, tu leur fais un procès. Au même moment, je sors un pamphlet dans ma revue, pétition pour la fleur qu'on dérobe à un villageois. Je viens de la campagne, moi aussi, mais je n'ai conservé que les illusions qui me servent. Nous nous retrouvâmes une dizaine sur le trottoir, étourdis par le soleil déjà haut, l'air vif, le frais parfum de légumes et de fruits aux étalages à peine éclos. Bon matin, mon cousin, le jour est-il si jeune ? Lança Casal au planton. Dispersez-vous ou je vous remballe, répondit celui-ci. Une volée de colibés l'assaillirent, puis nous déboulâmes sur la ville nouvelle, la tête un peu lourde et pleine de vapeur, comme après le sommeil d'Adam. Nous découvrions des femmes à nos côtés. La dispersion était bien la dernière chose à laquelle nous songions, et je crus que pour un peu nous allions fonder une amicale des anciens de cette nuit. Ce doit être une manie assez française. Casal nous proposa d'aller piquer une tête dans une piscine de sa connaissance, mais les 2 clochards de la troupe, accablés de vermine, éludèrent pudiquement cette suggestion. Par solidarité, nous nous rabattîmes sur le bistrot. « Je n'y pense jamais le premier, » dit Casal, « et pourtant, il n'y a que là qu'on est bien. » Il commanda des tripes pour tout le monde, exigea du patron qu'il cria « mort aux vaches », puis nous fit mettre à table de part et d'autre d'un rayon de soleil, filles et garçons d'honneur d'un banquet sans noces. Et c'est vrai qu'on était bien, serrés au coude à coude les genoux contre ceux de sa voisine d'en face. La mienne était une mulâtresse d'une 20aine d'années, d'une nonchalance redoutable. J'avais un peu vu des noirs jusqu'à présent et je la considérais avec une insistance qui l'abusa. Elle me décrocha un coup de pied corrigé par un sourire. Nous avions en commun qu'on lui eût confisqué le plateau de fleurs qu'elle s'apprêtait à vendre dans un cabaret. Elle se prétendait tour à tour étudiante ou danseuse. Une foule de mensonges d'une incohérence enfantine s'abritait sous l'éminente vérité d'un jeune corps paré des grâces les plus naturelles. On ne lui en demandait pas plus. Casal, qui s'était amusé un moment de ces contradictions, me l'abandonna, et je profitai certainement du dépit qu'en ressentit la mulâtresse sous son détachement apparent. Il me semblait qu'avec Casal, je serais allé au bout du monde. Cet être rayonnait d'une santé monstrueuse qui ne le plaçait pas sans une certaine ingénuité devant les problèmes d'une vie retorse. Mais s'il ne prévoyait pas tous les coups, en revanche, les expliquait-il tous avec un rare bonheur, pliant l'évidence fantasque sous sa loi, déchiffrant l'univers à travers une grille implacable qui n'en laissait transparaître qu'une image à sa convenance. J'avais encore les semelles assez légères pour le suivre de plein pied dans ce royaume du caprice justifié et ne lui cédais en rien sur le chapitre de la candeur. Par malheur, il nous quitta au premier carrefour après que nous eûmes bu une dernière tournée pour célébrer l'anniversaire de la loi sur la répression de l'ivresse publique qui tombait précisément dans quelques jours. Comme un taxi l'emportait vers sa classe, et c'était drôle soudain de connaître un professeur quand 9 heures sonnaient, je m'aperçus qu'il ne m'avait pas donné son adresse. Une grande béquille d'assurance qui m'était venue m'abandonna. Dès lors, de carrefour en carrefour, notre groupe alla s'amenuisant dans le déchirement, et nous ne fûmes bientôt plus que 2, la mulâtresse et moi, fort encombrés de nos personnes vacantes. Son bavardage, poivré d'un accent un peu rauque, scandait sa démarche souple. À la République, elle était assistante sociale et s'appelait Émilienne. Bettina à l'hôtel de ville, où elle s'était promue institutrice. À travers ses avatars, je finis par comprendre qu'elle n'avait pas de domicile fixe, dormant chez l'une ou l'autre. Et quoi qu'il m'en coûtât de me présenter à mon hôtel dans la compagnie de ce mannequin d'ébène vêtu d'une salopette, je lui proposai de venir se reposer chez moi. Elle acquiesça, comme si la chose eût été de soi. Le patron ne marqua aucune surprise de me voir rentrer à pareille heure avec une négresse. Simplement, il nous demanda de remplir 2 fiches. La leçon de cette nuit portait ses fruits. Il tombait mal. Émilienne ou Bettina, j'allais peut-être enfin apprendre son vrai nom, parut contrariée. Je vis qu'elle inscrivait douloureusement Rachel sur le morceau de Bristol. Pour moi, sans mesurer l'importance de cet acte, je mentionnai spontanément mon identité qui n'éveilla aucune réaction chez le tenancier, bien qu'il eût tout lieu d'en avoir entendu parler. Seul, la Souillon, en me rouvrant la chambre, 15, me glissa avec un frottement du pouce contre l'index. Dites donc, le compteur a tourné depuis hier. Je me rappelais que le droit de souffler était un privilège qu'on achetait en entrant. Ce décor, d'où je m'étais élancé quelques heures plus tôt, me fit toucher le fond de l'amertume.
Je m'en vais bien avant l'heure. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je m'en vais avant que l'on ne se laisse aller. Je m'en vais avant que l'on ne puisse en rire. Je m'en vais en gardant toute ton odeur. Je m'en vais en te regardant dormir. Je m'en vais car l'on s'est vu voler. Je m'en vais avant que l'on ne puisse atterrir. Je m'en vais car l'on s'est tant aimé. Je m'en vais avant de te détruire. Je m'en vais pour que tu ne m'oublies jamais. Je m'en vais en te voyant sourire. Je m'en vais en croyant que tout est vrai. Je m'en vais avant de te découvrir. Je m'en vais bien avant de te décevoir. Je m'en vais bien avant de te... Trahir. Je m'en... ces évolutions. Je m'en vais avant que l'on puisse atterrir. Je m'en vais qu'annoncer ton aimé. Je m'en vais bien avant de te détruire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Dans les jours qui suivirent, je me présentai à plusieurs reprises chez ma marraine, espérant qu'elle serait rentrée. Je misais gros sur sa qualité de député pour hâter le dénouement de mes difficultés, mais je n'osais m'en prévaloir sans la consulter de peur de la compromettre. La concierge intérimaire, brave femme, ne se lassait pas de mon insistance et, comme je lui avais offert mon poulet, elle m'invita à le partager avec quelques commères. Je devins un habitué de la loge et bénéficiai à la fraîche d'une chaise de rotin sur le pas de la porte. Mes souvenirs me tenaient lieu de tricot. « C'est le filleul de Madame Augendre !» confiait l'ogresse aux suffragettes de fort tonnage qui pratiquaient son club. Et un peu de la considération qu'elle portait à l'idole locale rejaillissait sur moi. J'en avais bien besoin. À la fin, ma reine, qu'on avait réussi à prévenir de mon arrivée, fit répondre qu'elle irait directement de Deauville au congrès d'Aix-les-Bains dans la voiture d'un maharaja radical socialiste et ne trouvait pas motif à modifier son itinéraire. À ma vive stupeur, je crus deviner entre les mots qu'elle nous battait soudain froid parce que nous n'avions pas rejoint plus activement, ma mère et moi, les maquis de la libération. C'était peut-être une attitude dictée par une opportunité de haute politique, mais je crus plutôt que la contagion du salut public l'avait gagnée au point qu'elle nous en fit sincèrement grief. Quoi qu'il en fût, ce jour m'éloigna un peu du cercle des tricoteuses. Et je remplaçais nos entretiens sur la réforme de la Constitution, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, par des méditations prolongées dans les squares poussiéreux de ce quartier que je n'osais plus quitter tant le faux mouvement me semblait l'état naturel de l'homme. Jusqu'au couchon sous lequel des mécanos sentimentaux s'attardaient à caresser des midinettes crépusculaires, je restais sur un banc dans une virevolte de papier gras, de peaux de banane, de feuilles tombées, de journaux caduques. Les caprices d'un souffle de vent me plaquaient aux jambes les résultats des courses avant les pronostics, l'arrestation des gangs des faux académiciens après son acquittement. Tout ce par quoi la vie est éphémère, fête fugace, crise passagère, glissait autour de moi, me contournait sans m'atteindre. Mais la vision d'un père après le travail conduisant par la main un petit garçon vers le tas de sable, leur querelle tendre, leur complicité évidente, m'arrachait des larmes des yeux. Ni veuf, ni orphelin, la langue n'a pas inventé de nom pour qualifier ceux qui sont privés de leurs enfants. En revanche, l'homme qui ne travaille pas est un chômeur. J'avais songé à chercher une situation, pensant y trouver un dérivatif et une revanche. La saison ne s'y prêtait guère et les fonctions de remplacement auxquelles j'aurais pu prétendre m'étaient interdites en raison des références pourtant élémentaires qu'on exigeait. Un gros courtier en pharmacie qui avait écouté favorablement mes offres de service me fit « Revenez demain et apportez-moi un petit dossier avec votre adresse que je puisse vous convoquer quand j'aurai besoin de vous. » Pensionnaire d'une maison de rendez-vous et dépourvu de pièces d'identité, j'étais à la merci de la moindre contre-enquête. En vérité, j'étais retourné dans les limbes et nul signe annonciateur n'indiquait que quelqu'un dût venir m'y racheter. Ce qui s'effondrait en moi, cette volonté à la dérive, cet espoir qui désespérait, je les rassemblais. Les nouait tant bien que mal au moment de retourner à l'hôtel pour affronter l'œil de mon guichet invisible et muet. Le plus ennuyeux était de ne pouvoir discerner s'il était là ou s'il était absent, mais peut-être ne s'absentait-il jamais. Dans l'ignorance, j'agissais toujours comme s'il eût été là, menant une existence exemplaire à force de modestie, de sagesse, d'hygiène, et éteignant très vite la lampe. Il y a des morales et même des religions fondées sur moins que cela. Je n'étais plus gêné maintenant pour m'adresser à lui et me surprenais souvent à interpeller familièrement du côté du miroir. Certains soirs, persuadé qu'il s'agissait d'une femme. Et qui pouvait s'attacher à surprendre ma pudeur, sinon une femme, une dame perverse, ou simplement la soubrette, digne pendant du maître baigneur ? Je collais mes lèvres contre la glace. À d'autres, j'imaginais un colonel, je me déshabillais dans le noir. La négresse n'avait pas mal dit, on s'accoutumait à ses témoins du moindre geste, le plus angoissant était de ne pas savoir qui témoignait ni comment il était fait. En outre, la pensée que je la connaissais peut-être, que je le rencontrais dans la rue, qu'il pouvait m'arriver de lui parler, m'était pénible. J'entrepris de le démasquer, quittant furtivement ma chambre, après en avoir fait claquer la porte et m'embusquant sur le palier. Mais soit qu'il eût aperçu carrément les préparatifs de mon piège, soit qu'il l'eût flairé, je ne vis jamais personne sortir ni entrer dans la pièce voisine, et je ne parvins pas à recueillir sur son identité plus de lumière que je ne possédais de preuves formelles de son existence. Un soir, montant les escaliers, la Souillon m'accosta en grande confidence. « Quelqu'un vous attend là-haut ! » Je la regardais avec l'attention pesante que j'apportais d'ailleurs à dévisager tout le monde dans l'enceinte de cette maison à double fond. « Qui ça ? C'est un secret !» répondit-elle bêtement à son ordinaire. Aux palpitations de mon cœur, j'appréciais ce que venait d'être mon dénuement des derniers jours. Le temps d'accéder à mon étage, les plus folles imaginations me traversèrent, et passant d'un extrême à l'autre avec la gloutonnerie imprudente des rescapés, je m'accordais le meilleur, je dois avouer qu'il tenait tout entier à Mauvezac, et que je voyais déjà ma mère assise droite sur une de mes chaises avec des provisions sur les genoux, comme jadis au parloir, où Denise, entreprenant aussitôt, redistribuant mes affaires entre l'étagère et la valise où j'enfouissais mon linge usagé. Ce n'était qu'Émilienne, ou Bettina, ou Rachel, telle qu'en elle-même, c'est-à-dire couchée. « Voilà, » dit-elle, le nez entre ses seins tourné comme des obus, « je suis monté parce qu'on m'a affirmé que tu étais tout seul. Autrement, je serais parti. J'agis toujours en camarade. » Je surmontai ma déception en même temps qu'un mouvement m'échappait vers le miroir. Cette fois, elle ne l'avait pas obturé, insoucieuse de sa nudité. Elle remarqua que je rougissais. qu'est-ce que ça peut faire ? Si tu veux, mets quelque chose dessus, il y a de la volupté à penser que quelqu'un attend peut-être cet instant depuis des heures et que nous l'en privons. » Elle était à son aise, ayant même picoré quelques pages dans des livres qu'elle avait rejetés ensuite sur le dessus du lit. Quel instinct têtu l'avait ramenée ici ? Le soin de trouver un abri passager ne justifiait pas cette migration à travers la ville. Elle ne fréquentait pas ce quartier. Et je ne la savais pas en peine. Je ne me payais pas non plus d'illusions sur l'attachement que j'avais pu inspirer à ce corps disponible et paresseux. N'était-elle pas plutôt l'instrument d'une épreuve qu'on m'imposait, un coup du sort ? J'étais en de telles dispositions que je le vis ainsi et la priai doucement de s'en aller. J'éprouvais jusqu'à la pudeur de me cacher au regard du miroir. Ce n'était plus seulement mes gestes qui étaient en cause, mais aussi mes intentions. « Je comprends, dit-elle, une femme doit venir. » La vérité était qu'une femme était là, Denise. L'inquiétude déguisée que j'avais laissée s'exprimer dans la lettre à ma mère révélait qu'une obsession ne cessait de cheminer en moi. Quand on aime un être à travers les objets usuels, on l'aime fermement. Privée du décor et des rites de notre vie antérieure, c'est Denise que j'avais peur d'avoir perdue. Chacun de mes souvenirs roulait dans son écume les paroles d'adieu qu'elle avait prononcées et leurs menaces suspendues. Mon soupçon minutieux pillait sa substance dans les épaves d'un bonheur qu'il s'appliquait à naufrager. La jalousie ne libère pas, elle attache. C'est dans le moment que nous serions les plus vacants pour les aventures que le goût nous en passe. Alors, aucune femme ne remplace une autre. Je voudrais être sûr que ce n'est pas parce que je suis noir, dit-elle, en laçant d'étranges souliers de caoutchouc avec une âme humide dans les yeux. Restée seule, mais non pas apaisée de cette victoire trop facile de ma vertu, j'essayais de me représenter Denise en proie à l'assaut que je venais de repousser. Femme de devoir, avait-elle assez d'imagination pour désirer quelqu'un en dehors de son foyer, mais désirant, lui en restait-il assez pour aller contre son désir ? Les êtres de cette sorte sont tout entiers là où ils sont. Ils regardent les choses en face. Ils sont terribles. Et puis c'est compté sans les nébuleuses. Peut-être n'avais-je déjà plus ma place là-bas. Dans les derniers temps, j'en étais arrivé par approximations successives à incarner ce qu'elle détestait le plus, la distraction, la complexité et une certaine veulerie artiste. Mais n'était-ce pas moi qui les lui avais fait prendre en horreur ? Ses chapeaux ne m'allaient pas. La tête y était aussi pour quelque chose. Incapable de tenir plus longtemps, je me précipitai au bureau de poste le plus proche pour téléphoner. Quel numéro ? La personne n'a pas le téléphone. Je voudrais lui envoyer un message pour qu'elle m'appelle d'un endroit. Je crois que cela se fait. Destinataire ? J'étais venu ici poussé par le besoin d'entendre la voix de Denise, le besoin physique. J'étais persuadé que je parviendrais à dérober au climat de notre conversation, au détour d'une phrase, au gré d'une intonation, cette clé essentielle de mon destin. Mis au pied du mur, l'idée me traversa de demander à ma mère la relation de tout ce qui s'était passé en mon absence. Elle excellait en parfaite bonne foi à ce genre de rapport. L'inélégance du procédé me choqua. Je ne l'avais que trop souvent interposé entre Denise et moi. J'en appelais à des certitudes plus subtiles. Madame Benoît Laborie à Mauvezac. Et vous, où doit-on vous toucher ? À quelle heure ? Ici, si c'est possible. Le plus vite sera le mieux. Vous ne ferez pas mal, dit la préposée en se tournant à demi vers l'énorme pendule, parce qu'on ferme à 7 heures. Il était 5 heures un quart. Denise serait à la maison au retour d'une promenade active et les enfants réveillés tendraient leurs bras vers les fleurs. La petite messagère de la poste, sa casquette enfoncée jusqu'au goitre, la trouverait devant des bols de faïence bleue ou penchée sur le livre de comptes qui était son journal de bord. Sur le champ, elle ne comprendrait pas. La messagère s'exprimait mal avant le second verre de vin. Ensuite, Denise la devancerait sur la route, bien qu'elle eût emmené le landau pour ne rien perdre de cette fin de journée. Les pierres dont on fait deux coups lui étaient précieuses. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.